vient découvrir ce cinéaste qui avait plutôt la réputation d'être austère et difficile, et dont on découvre parfois qu'il a fait des films du côté de la sensualité, de la joie et de la lumière.
On retrouve après justement une période où Bergman s'est très attaché à l'angoisse existentielle, de plus en plus désespérée. Il retrouve une sorte de sérénité provisoire à travers la musique, Bach, mais aussi Mozart dans L'heure du loup, qui est le seul petit intermède dans ce film cauchemardesque, le seul intermède un peu léger, c'est un extrait de La Flûte enchantée, justement, et c'est pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard si Bergman retrouve entièrement une thématique de bonheur et d'initiation et de voyage vers la lumière avec La Flûte enchantée. Mais bon, quand on regarde les années 50, Souris d'une nuit d'été, c'était pas loin de ça. C'était les chansons d'Eva Dalbec, c'était l'état de grâce du spectacle, pour le spectacle, mais aussi du spectacle thérapeutique pour les gens qui étaient arrivés à des impasses dans leur relation avec les autres. Et il y a une influence qu'on cite rarement à propos de Souris d'une nuit d'été. Bon, c'est vrai que c'est une satire bourgeoise, c'est vrai que c'est apparenté à la fois à certaines pièces de Tchekhov ou d'Ibsen et à la fois à La règle du jeu de Renoir. Mais c'est l'époque aussi où Bergman triomphait sur scène avec son plus gros succès scénique, qui est La veuve joyeuse de Franz Lehár, et qu'il a toujours rêvé de porter à l'écran. Ça s'est pas fait pour des raisons essentiellement budgétaires, mais bon, La veuve joyeuse, c'est bien ça. C'est à la fois veuve et à la fois joyeuse. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui, sous une apparence frivolité, devait bien plaire à Bergman.
Going to Paris tomorrow. Tomorrow morning. As soon as possible.
Yes, madam.
There's a limit to every will.
De La veuve joyeuse de Ernst Lubitsch à La veuve joyeuse que projetait de réaliser Ingmar Bergman, il n'y avait qu'un pas, et Passerelle vient de le franchir. Notre invité aussi, puisque notre invité Yann Tobin a coécrit avec Christian Viviani un livre consacré à Ernst Lubitsch. Ce livre a eu le prix du meilleur livre de la critique de cinéma l'an dernier, en 92. Et donc, le voici revenu aujourd'hui avec un Ingmar Bergman, magicien du Nord. Donc, le pas a été franchi, le pont a été jeté. D'Ernst Lubitsch à Ingmar Bergman, il n'y avait qu'un pas. Passerelle et Yann Tobin l'ont franchi, puisque nous vous offrons les deux sur un plateau. Nous retrouvons Yann Tobin pour Ingmar Bergman.
Parce que tu écris quelque chose qui me semble un peu injuste. Tu dis à propos d'À travers le miroir, Harriet Anderson est fabuleuse. Certes, mais elle esquive un petit peu le jeu des hommes. Et moi, j'ai revu le film, là, et j'ai été estomaquée par les trois personnages d'hommes et leurs relations. Le jeu que je trouve extraordinaire d'acteurs qui lui sont fidèles, Max von Sydow et Gunnar
Bjørnstrand,
et je trouve que ce sont des personnages très forts.
Oui, mais ce sont encore des esquisses des grands personnages d'hommes qui sont à venir chez Bergman. Alors, il y a aussi ce trait caractéristique chez lui, c'est qu'il y a Bergman a des périodes où il s'intéresse à la femme, presque exclusivement, la période Harriet Anderson. Ensuite, il y a des périodes où il s'intéresse aux hommes. Mmh. Et les périodes où il s'intéresse à la femme sont des périodes beaucoup plus épanouies sur le plan cinéma, c'est-à-dire moins bavarde, plus musicale, plus belle dans une acception classique du terme, avec de belles images, etc. Quand il s'intéresse à l'homme, c'est beaucoup plus torturé. Mmh. Et c'est la période Max von Sydow, c'est-à-dire où les fraises sauvages, le septième saut, où il prend des porte-paroles cette fois-ci, qui sont des films plus théoriques, plus didactiques, hein, même sur le plan des images, où les images servent un propos très très construit. Où la femme devient ce qu'elle était, devient pas une figurante, mais devient au maximum le catalyseur, mais d'angoisse très très masculine. Mmh. Et cette période-là fait suite à une période féminine d'épanouissement. C'est étonnant, hein, avec des formes de passage, hein, parce que dans les fraises sauvages, il y a aussi justement les scènes des fraises sauvages, mais qui sont moins,
Dans le septième saut, tu as Mia. Ouais. Qui offre les fraises sauvages au chevalier.
Voilà, mais c'est une halte de repos. En fait, le chevalier, il est... Oui, c'est une pause. Lui, à la fin, il est quand même destiné à retrouver la mort dans la ronde de la mort. Et alors, suite à cette période, d'abord essentiellement féminine, pour être très schématique, ensuite une période masculine, il y a toute une période une période où il découvre aussi le film en couleur, où il fait la connaissance de Liv Ullmann, et qui est la période du couple. Et les années après la période masculine, à partir du milieu des années 60, Bergman va accentuer sur le couple comme il l'avait fait dans ses premiers films des années 40. C'est-à-dire l'enfer du couple, qui est évidemment toujours présent, mais parfois plus ou moins exprimé chez lui, et ça va devenir son thème essentiel à partir des années fin des années 60 et toutes les années 70.
Moi, il y a un film qui me semble charnière et important et que j'aime beaucoup, qui sont un des plus beaux Bergman, mais en tout cas un des plus importants, c'est Les Communiants. Et me semble-t-il, avec Les Communiants, il jette un peu la gourme, sa gourme, par rapport justement non à des questions existentielles et par rapport à Dieu et à la religion. C'est-à-dire que c'est quand même un film terrible, me semble-t-il. Gunnar Bjornstrand, qui joue donc le pasteur, est montré comme un fonctionnaire. Mais c'est plus complexe que ça.
C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi un rappel de la figure paternelle de Bergman. C'est aussi une époque où Bergman fait ses films de chambre, c'est-à-dire des films très dépouillés. Mmh. Hein, et ça, là, c'est le plus dépouillé de tous ces films. Mmh. Mais c'est un film dont il reste aujourd'hui très fier, parce qu'il il s'est battu pour le faire. Personne ne voulait qu'il le fasse. Sa femme lui disait, mais tu es fou de vouloir faire un film pareil. Gunnar Bjornstrand était absolument terrifié à l'idée d'interpréter un personnage aussi antipathique et aussi froid. Mmh. La très très belle Ingrid Tulin est enlaidie de manière absolument abominable dans ce film. Il lui met un bonnet de laine et des lunettes, il la maquille pas, il lui donne de l'eczéma, enfin il lui met de l'eczéma sur les mains, enfin c'est absolument horrible. Et c'est un film que lui-même, qu'il avait besoin de faire, je pense. Pas uniquement pour sur un plan, je dirais, psychanalytique, pas uniquement pour exprimer ses obsessions, mais sur le plan formel. C'est un film où
Bergman... Je crois que c'est là qu'il inaugure la modernité.
Je pense, d'une certaine manière, c'est un film sans concession, mais Bergman lui-même dit qu'il n'aime pas trop aujourd'hui À travers le miroir, parce qu'il dit que c'est un film coquet, avec trop d'effets faciles. Bon, on peut être d'accord ou non, mais par rapport aux communions, on comprend ce qu'il veut dire.
Absolument.
Les communions, pour lui, c'est un film pur. Et c'est intéressant aussi d'écouter son chef opérateur, Sven Nykvist, qui dit qu'avec Les Communions, il a inauguré un nouveau style de lumière. Ouais. C'est-à-dire qu'il a éliminé toutes ces ombres projetées, tout le bric-à-brac expressionniste qui caractérisait une certaine partie du cinéma suédois, et Bergman en partie, pour une lumière plus nette, plus pure, plus tranchée, et donne toute son expression à la composition du cadre, qui fait ressortir la vulnérabilité des visages des acteurs. Enfin, tout ça, enfin, c'est très sensible dans les séquences, dans les temples, où Bergman d'après les comptes rendus de tournage, attendait une certaine heure pour que le bon rayon vienne à la bonne place pour filmer ses comédiens. Et c'est pas du tout un film minimaliste, comme beaucoup on dit. C'est un film, au contraire, très riche, mais sous une apparence de dépouillement total.
Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que je trouve qu'il y a quand même deux audaces formelles, en tout cas dans l'œuvre de Bergman, très en avance de leur temps du point de vue du langage cinématographique. Donc il y a le fameux plan de Monica où elle regarde la caméra, qui influencera la nouvelle vague. Et dans Les Communions, il y a cette très longue séquence, ce plan séquence très long où Ingrid Tulin dit la lettre qu'elle a envoyée au pasteur. Par ailleurs, moi je pense que sur le travail de la lumière, je pense que c'est un film plus net, parce que c'est un film aussi sur la certitude peut-être.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un film sur la certitude cinématographique qui parle du doute le plus profond sur le plan existentiel. C'est peut-être ça qui lui donne une partie de sa richesse. Ça va être un tournant parce qu'ensuite Bergman sera de plus en plus malade en faisant ses films et je pense qu'un film comme Les Communions, ça peut rendre malade de le faire. Autant il s'est amusé, il dit qu'il s'est amusé à faire le silence, autant je pense que Les Communions a été difficile à faire et qu'ensuite il aura besoin d'une nouvelle libération et cette libération va arriver avec Persona. C'est-à-dire qu'avec Persona, ça y est, il va accoucher d'une nouvelle vision sur le cinéma. Mais bon, Les Communions, c'est un petit peu un adieu. Ça parle aussi un petit peu de manière sous-jacente, ça parle aussi du spectacle, Les Communions, puisque finalement, qu'est-ce qui reste au pasteur qui a perdu la foi? C'est de faire de sa messe un spectacle. Et c'est à la fois dérisoire, à la fois c'est très beau. C'est une leçon que Bergman a retenue de son père quand il était déjà vieillissant, mais qui s'obstinait à faire sa messe, à faire son office, et la morale des communions, c'est « the show must go on ».
C'est ce que j'allais dire.
Oui, absolument, c'est « quoi qu'il arrive, en tant que prêtre, tu feras ton office ». Et Bergman, lui, l'éternel malade, l'éternel angoissé, je veux dire, qui somatisait, qui avait d'épouvantables diarrhées, qui s'était fait installer des WC spéciaux dans les coulisses des théâtres. Bon, lui, eh ben, en continuant à faire du spectacle, c'est ce qui le maintenait en vie. Et bon, et en même temps, ce qu'il détruisait, parce que ça exige une énergie absolument faramineuse. Et c'est pour ça qu'il a fini par arrêter, en disant « je ne veux pas baisser, je veux terminer comme ça, et tant que le spectacle peut encore vraiment continuer, mais je ne veux pas le voir. »
Alors, il y a des films qui semblent très importants pour toi, c'est Persona, j'aimerais que tu m'en parles un peu, et ensuite on arrivera sur le...
Oui,
l'autre versant de l'œuvre.
Persona, c'est un film où Bergman dit « Si je n'avais pas fait Persona, je me serais suicidé ». C'est un film où il était en hôpital psychiatrique, il ne savait plus quoi faire, il était en fait surmené, il avait eu des problèmes en tant que directeur de théâtre, des problèmes administratifs, etc. Bon, il n'allait pas bien et il a écrit un ouvrage qui s'appelait « La peau de serpent » qui exprimait un petit peu ses doutes d'artiste. Et progressivement, ce texte théorique, il l'a appliqué à une situation qu'il vivait, c'est-à-dire une situation clinique, hein, une patiente et son infirmière. Et il en a fait une réflexion sur le cinéma et aussi sur l'émotion du cinéma, c'est-à-dire que c'est tout sauf une œuvre théorique et didactique. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans Persona. C'est un film à deux personnages, c'est deux actrices, comme par hasard. Ils retrouvent une sorte d'exubérance totale du cinéma à travers deux comédiennes. L'une avec qui il a vécu, dont il s'est séparé, qui est Bibi Anderson. L'autre qui est une inconnue, dont il va faire la connaissance à l'occasion de ce tournage, qui est Liv Ullmann et qui sera sa compagne pendant des années. La compagne de Faro. Et donc Persona, c'est une somme de tout ce que Bergman a appris au cinéma, et à la fois c'est le testament qu'il va laisser sur sur sa vie et ses doutes d'artiste, et en même temps c'est l'ouverture à toute la modernité à venir encore de Bergman. Donc œuvre charnière, œuvre très émouvante, dont d'ailleurs le titre d'origine était cinématographe. Et c'est la deuxième fois de sa carrière que Bergman parle de cinéma dans le cinéma. La première fois, c'était dans Prison, qui était peut-être son premier film testamentaire, où il parlait d'un cinéaste qui avait des doutes aussi pour créer. Et là, il exprime ses doutes, mais pas directement à la première personne, comme pourrait le faire Fellini dans 8 et demi, mais à travers une histoire, une fiction, entre deux personnages féminins, sur cette île qu'il a pris lui-même comme lieu de résidence, et en l'entrecoupant d'images qui ont parfois irrité ou parfois semé l'incompréhension, d'images de bobines, de films qui se cassent, de bobines qui tournent à vide dans un appareil de projection. Donc Persona, c'est pour moi son plus grand film, une de ses œuvres charnières, qui vient à peu près à mi-chemin de sa carrière.
De soi que le cinématographe devint mon moyen d'expression. Je me faisais comprendre dans une langue qui ne passait pas par le langage qui me manquait, par la musique que je ne dominais pas, par la peinture qui me laissait froid. J'avais soudain une possibilité de correspondre avec le monde autour de moi, dans une langue qui se parle littéralement d'âme à âme, dans des tournures qui presque voluptueusement se soustraient au contrôle de l'intellect. Avec toute la faim rentrée de l'enfant que j'étais, je me suis jetée sur mon médium et pendant 20 ans, sans me lasser avec une sorte de fureur, j'ai transmis des rêves, des sensations, des fantasmes, des crises de folie, des névroses, des stases de la foi et de purs mensonges. Ma faim sans cesse a été neuve. L'argent, la célébrité, le succès ont d'une façon surprenante mais finalement peu intéressante bordé mon passage. En disant ça, je ne sous-estime absolument pas ce que par aventure j'ai pu réaliser. L'art en tant que satisfaction de soi peut avoir naturellement une certaine importance, surtout pour l'artiste. Si donc je veux être tout à fait franc, l'art, et pas seulement l'art cinématographique, est pour moi sans importance. La littérature, la peinture, la musique, le cinéma et le théâtre s'engendrent et se nourrissent d'eux-mêmes. De nouvelles mutations, de nouvelles combinaisons surgissent et s'anéantissent. Vu de l'extérieur, le mouvement semble d'une vitalité fébrile alimentée par le superbe empressement des artistes, à projeter devant eux et un public de plus en plus distrait, un monde qui ne se soucie plus de ce qu'il pense. Il existe quelques rares réserves où les artistes sont punis et où l'art est considéré comme un risque qui vaut la peine d'être étouffé ou dirigé. En gros, néanmoins, l'art est libre, éhonté, irresponsable, et comme je viens de le dire, le mouvement est intense, presque fébrile. Il ressemble, me semble-t-il, à une peau de serpent pleine de fourmis. Le serpent lui-même est mort depuis longtemps, vidé, privé de son venin, mais la peau bouge, pleine d'une vie diligente. Ingmar Bergman, extrait de La peau de serpent, publié dans Images, édition Gallimard.
J'aimerais qu'on arrive donc à quelque chose qui me semble essentiel, ce que tu appelles vers la sérénité, et donc La flûte enchantée et Fanny Alexandre, qui d'ailleurs fait le pendant, puisque toi tu as bien insisté là-dessus en début d'émission, sur l'aspect pas comédie, ni léger, ni frivole, mais quand même comédie, chez Bergman, ce qu'on a quasiment pas parler du Sourire de l'humilité, qui est un film magnifique, ni d'une leçon d'amour, qui est un autre film magnifique, qui sont deux comédies de Bergman. Mais il me semble qu'avec La flûte enchantée, il arrive... moi, je trouve que c'est un des plus beaux films de Bergman, non pas parce que c'est l'opéra de Mozart, mais parce qu'il y a confluence convergence.
Oui, absolument. C'est un film où... c'est un film qui est la réunion de beaucoup de choses. C'est à la fois un tournant dans l'œuvre de Bergman. Bergman, c'est un film fait pour la télévision. Hein. Donc Bergman a appris à remettre en question les modes de production cinématographique. Il a fait Scène de la vie conjugale, qui était son plus gros succès populaire, qui était un feuilleton en fait. Hein. Et à la suite de ça, il fait La Flûte enchantée, qui est tournée en 16 mm, mais qui est une super production télévisuelle, qui est une œuvre de commande, étrangement. Qui est une œuvre qui a été commanditée pour l'anniversaire de la radio suédoise ou radio-télévision suédoise. Donc c'est un film où ils ne se sont pas eux déversés ses tripes, comme ça avait été un petit peu le cas dans ses films précédents, c'est-à-dire les films des années début des années 70. C'est un petit peu des films très proches, trop proches.
Trop narcissiques
sur le plan bergmanien, où ils se sont obligés de...
Ce qui m'a fait me détourner de Bergman. D'ailleurs.
Mais ça c'est possible. Et alors tout d'un coup, on lui offre l'occasion, à travers l'œuvre d'un autre, de s'exprimer, comme il le fait au théâtre d'ailleurs. Parce qu'au théâtre, bien qu'il ait écrit des pièces, il ne voulait jamais monter ses propres pièces. Il voulait monter les pièces des autres.
Chekhov, Strindberg.
Shakespeare. Donc là, c'est la même chose. Il a l'occasion de faire passer... Son plaisir du cinéma, mais aussi certaines de ses hantises, mais à travers l'œuvre d'un autre. Pour lui, c'est l'équivalent d'une récréation sur le plan intellectuel, même si sur le plan technique et sur le plan physique, ça lui demande beaucoup d'efforts et un tournage très très dur. Mais en tant qu'artiste, il se sent un petit peu libéré grâce à l'opéra de Mozart. Donc c'est pour lui l'occasion d'une explosion de joie comme il y en avait eu très peu depuis les années 50. Bergman a toujours eu un problème par rapport à la comédie. Hein, là c'est peut-être son premier film drôle depuis presque 20 ans. Et on disait toujours de Bergman quand il était petit, ce garçon n'a aucun humour. Et je veux dire, il n'en croyait pas ses oreilles quand il a entendu les gens rire à sa première comédie, qui n'est même pas un film entier, mais qui était un sketch de L'attente des femmes. Pour lui, c'était une révélation qu'il puisse faire rire à travers quelque chose qu'il avait écrit lui-même. Bon, et là, c'est vrai que les comédies de Bergman dans les années 70 sont quasiment... Enfin, dans les années 60, sont quasiment absentes. Et de revenir à une sorte de joie de vivre exprimée à l'écran, ça, il y arrive au moment de La Flûte enchantée, qu'il arrive à réaliser, alors que le projet de La Veuve joyeuse avec Barbara Streisand, Dieu merci, est en train de capoter complètement.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que La Flûte, c'est à la fois la joie de vivre, mais je dirais que c'est l'aboutissement de la quête de savoir qu'avait par exemple un personnage comme le chevalier dans le 7e saut. Parce que Tamino,
bien sûr,
compte,
mais c'est le voyage vers la lumière, voilà. Après quoi aspirent tous les personnages de Bergman.
Absolument.
Là, ils y arrivent.
Moi, j'ai l'impression que la quête existentielle et les réponses que cherchent les personnages bergmaniens trouvent leurs réponses à travers La Flûte enchantée.
Mais bien sûr, parce qu'à la fois, Bergman n'est pas un grand musicologue. Hein. Je veux pas dire, il n'a pas une lecture de Mozart révolutionnaire du tout. Au contraire, c'est plein de révérences. Ça développe complètement.
La force du film, oui, parce que d'habitude,
il cherche pas à s'imposer.
Voilà, l'opéra au cinéma, je suis désolée, il y a très peu de réussite. Et à mon avis, Bergman est la plus grande.
Absolument. Là, il s'efface. C'est-à-dire qu'en plus, il recrée un spectacle théâtral plutôt que d'aérer l'opéra. Hein, et donc, il se met
au service de Mozart.
Voilà, il devient humble.
Il y a un respect de Mozart. C'est un film intègre et sobre.
Absolument.
Mais beau, superbe. Et c'est du Bergman.
Ça, d'une part, parce qu'ils se sont aussi tout à fait capables de mettre en scène la joie qui existe dans Mozart, et la joie à la fois à travers, au-delà du désespoir qui existe, hein, parce qu'il y a une note sombre aussi dans La Flûte enchantée. Ils se sont capables de le faire. Ça faisait des années, qu'ils rêvaient de mettre en scène Mozart au théâtre, mais ils disaient il faut au moins 15 ans pour arriver à mettre en scène un opéra de Mozart.
Donc, et puis alors,
voilà.
Moi, ce qui qui me ravit dans La Flûte, c'est qu'il tourne le dos à un certain naturalisme qu'on pouvait voir dans certains de ses films des années 70.
Oui, en particulier celui d'avant, celle de La Vie conjugale, voilà. Pour revenir à une sorte de...
La magie du cinéma, voilà. Tu dis Méliès dans ton livre et on y est.
Absolument, et à une sorte de célébration de l'artifice qu'on n'avait pas vu, c'est vrai, depuis un certain temps dans ses œuvres.
Et des trucs de cinéma.
Et bien que ce soit prétendument un spectacle monté sur scène, il y a plein de trucages. Il y a des surimpressions, il y a des disparitions, la Reine de la Nuit, etc. Bon, il y a une redécouverte de l'innocence, en fait, perdue peut-être du cinéma. Alors Bergman s'en donne à cœur joie, je crois que le mot est vraiment... Et d'autre part, il trouve dans le livret de Schikaneder suffisamment de construction et de prise pour y greffer des obsessions, mais qui sont retournées comme un gant. Par exemple, à un moment, les trois reines de la nuit, les trois dames de la nuit mettent un cadenas sur les lèvres de Papageno. Bon, c'est comique dans l'opéra et dans le film, mais c'est tout à fait compatible avec les plus grandes angoisses et le mutisme de l'artiste chez Bergman. Enfin bon, et ça, il en parsème. D'ailleurs, il peut en parsemer tout l'opéra parce que le livret s'y prête. L'inversion des valeurs entre le royaume de la nuit et le royaume de la lumière, ça, c'est quelque chose qui je pense, est présent de manière parfois même un peu lourde chez Bergman, y compris dans un film comme L'œil du diable. Et bien là, c'est naturel. Et puis, au moins, il peut dire, c'est Mozart, c'est pas moi. Et en fait, c'est quand même lui. Dans La Flûte enchantée, un air très célèbre, qui est celui qui est repris dans L'heure du loup, celui où le héros, Tamino, s'éveille. Le héros Tamino, à la suite d'une nuit d'insomnie, voit arriver son heure du loup. Aux longues nuits, qu'en finiras-tu ? Ça, c'est le cauchemar bergmanien. Bon, mais là, c'est transfiguré par un conte de fées. Et Bergman est très très sensible aux contes de fées. Il en a fait beaucoup. Pour lui, c'est l'aspiration à un récit qui mêle l'imaginaire, le souvenir et la réalité, le présent. Et je pense que sans La Flûte enchantée, Bergman n'aurait sans doute pas fait ce chef-d'œuvre qu'est Fanny et Alexandre, qui est le conte de fées scandinave dans toute sa beauté.
Not an aldrich meal.